Bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour à Samuel. Bonjour à tous vos amis qui nous rejoignent sur le net. Je voudrais dire au frère qui m'a écrit au sujet d'une âme, pré-adamique, que je ne sais pas, c'est pourquoi je n'ai pas répondu clairement à la question. Je suis pas, je ne sais pas tout, je suis toujours en train de rechercher, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas le prendre mal si j'ai répondu un peu évasivement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, ça va? On va lire Matthieu chapitre 5, verset 17-18. Matthieu 5, 17-18. C'est Jésus qui parle, disant: « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. » Amen. Alors, Jésus nous a rachetés de la chute. Ça, c'est une chose accomplie, c'est fait. Le Sauveur est devenu le maître de la situation. Il a reçu tout pouvoir. La dette est payée, la rédemption est accomplie, l'alliance est remplie, la justice est satisfaite, la volonté de Dieu est faite, et tous les pouvoirs désormais sont entre ses mains. Ça, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous confessons. Le pouvoir de la résurrection, le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du salut, le pouvoir de décréter des lois en vue d'exécuter, d'accomplir ses desseins, tout ça, c'est entre ses mains. L'immortalité est révélée, parce que à l'époque, les pharisiens y croyaient, et puis les autres n'y croyaient pas. Enfin bon, voilà, lui, il l'a mis au clair. La bonne nouvelle est prêchée, prêchable, on peut la comprendre et l'enseigner. Jésus, on le comprend, est l'auteur parfait et complet et total de notre salut. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour rajouter à ce qu'il a fait. Il est le Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Il est le Ressuscité, le Guérisseur, le Sauveur. Jésus a véritablement désigné la loi de l'Évangile clairement. Et la loi de l'Évangile, c'est ce qui est le moyen auquel nous avons à nous soumettre dans ce monde pour arriver à avoir une vie digne de notre repentance. Il est lui-même soumis à la loi de son Père. C'est vrai ou c'est pas vrai? En conséquence, celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la loi de l'Évangile. Ça, c'est la loi de l'Évangile. Ce plan, cet arrangement, cet accord, cette alliance, tout cela, ça a été fait, c'était contracté, ça a été accepté avant la fondation du monde. Ce plan, cet arrangement, cet accord, cette alliance, ont été préfigurés par les sacrifices que Moïse a transmis au peuple de la part de Dieu. Tout ça, ça a été mis à exécution, et tout ça a été consommé à la croix. Alors maintenant, voilà le problème, consommé. Ça, c'est des mots, je ne comprends pas pourquoi dans la Bible, ces vertus à toujours nous mettre des vieux mots qu'on ne comprend pas, on dirait qu'ils veulent nous laisser dans un flou artistique. Consommé, ça signifie mettre à terme de son accomplissement. Ça, c'est ce que le dictionnaire nous enseigne. Dictionnaire, ça sert à comprendre la signification des mots. Consommer, ça signifie achever, terminer, détruire, amener une chose à la destruction en utilisant sa substance et en faire un usage qui la rend ensuite inutilisable. C'est pourquoi on dit on a consommé du pain. On en fait quelque chose qui le détruit en l'utilisant et en rendant cette chose inutilisable. Vous m'avez suivi ? De la table aux toilettes. Alors, c'est pourquoi, Jésus étant le seul médiateur entre Dieu et nous, il devient de plein droit le dictateur de la terre. Alors évidemment, voilà encore un mot effrayant. Ne soyez pas effrayés, le mot dictateur n'a rien de négatif. C'est pas parce qu'il y a des mauvais dictateurs que le mot dictateur est mauvais. Un dictateur, toujours d'après le dictionnaire, c'est un magistrat extraordinaire. Vous savez qu'on, dans les sociétés, on a des assemblées ordinaires et des assemblées extraordinaires. Eh bien, dans les pays, il y a aussi de temps en temps des magistrats extraordinaires qui sont nommés pour un temps, dans des circonstances critiques, avec un pouvoir illimité. Mais c'est toujours pour un temps. Là où ça va plus, c'est quand le dictateur s'incruste et puis qu'il ne peut plus lâcher le morceau et qu'il est mauvais, quoi. Il est le seul possesseur de la plénitude de l'action. C'est ça, un dictateur. Il absorbe toutes les valeurs dans les siennes. Et ça correspond parfaitement à Jésus. Ça correspond parfaitement à Jésus. Il n'est pas... C'est pas parce qu'il y a des hommes qui ont été et qui sont encore des mauvais dictateurs que le mot dictateur lui-même est mauvais. Évidemment, si on dit Jésus est mon dictateur, il faut expliquer ce qu'on dit, parce que sinon ça devient... C'est comme quand on dit il est le consommateur de notre foi, il faut expliquer, parce que sinon on ne comprend rien. Quand on dit tout est accompli, il faut expliquer, parce que sinon ça ne veut rien dire, on ne comprend pas. Puis ça devient de la religion, puis on répète les choses sans les comprendre, et puis on vit dans l'échec, puis on se demande pourquoi. Frères et sœurs, croyez que la concentration de tous les pouvoirs sont entre les mains de Jésus. Vous le croyez ? Jésus tient tout entre ses mains, sur la terre, sous la terre et au ciel. Sous la terre. Qu'est-ce qu'il tient sous la terre ? Les insectes ? Les nappes phréatiques ? Non. C'est au sujet du séjour des morts. Et vous savez ce que nous croyons à ce sujet. Pour les vivants comme pour les morts, pour le passé, pour le présent comme pour le futur, il tient tout dans ses mains. Alors, il y en a qui contestent cela, ben pas nous, pas nous. Parce que nous remettons les choses qu'il a dites dans leur contexte. Et on comprend mieux quand on met les choses dans leur contexte. Alors, c'est déjà bien quand on comprend la signification des mots, mais c'est encore mieux quand on comprend ce que Jésus dit à une période donnée. Ce qu'il disait à ces gens-là, ce qu'on a lu dans Matthieu 5, ça, il ne le dit pas à nous. Jésus est le grand prêtre de notre salut, notre Seigneur, celui qui nous a donné la vie. Et mes frères et sœurs, nous sommes de ceux qui croyons absolument ce que la Genèse dit. Mais, contrairement aux évangéliques, nous ne croyons pas, enfin, plutôt, je vais plutôt dire ce que je crois, plutôt que dire ce que je ne crois pas. Nous croyons que seul Adam naît et ne sera responsable de la désobéissance d'Adam. Je ne suis pas responsable de la désobéissance d'Adam. C'est clair. Ce péché originel, c'est une invention. Ça n'existe pas. L'humanité entière est absoute de toute responsabilité de ce fameux péché originel. Il n'est pas dans la Bible le mot péché originel. Nous croyons que chacun rendra compte pour lui-même de ses propres transgressions personnelles. Je ne peux pas être plus clair. C'est tout. Oui, mes frères et sœurs, la chute était connue de Dieu à l'avance et elle a été transformée en une source de bien. C'était voulu. Elle a introduit la condition nécessaire de la mortalité parce que Dieu, étant la vie, il n'avait jamais été sauveur, il n'avait jamais été guérisseur, il n'avait jamais été... La résurrection pour lui, ça voulait rien dire du tout, pourtant il est tout. Il fallait que ces choses existent afin que cela soit et qu'il soit le véritable je suis de tout. Afin que le plan prévu à l'avance puisse se réaliser, il fallait qu'il y ait cette fameuse chute. Parce que un rédempteur aussi avait été prévu avant la création du monde, avant donc que Adam et Ève chutent. Il n'a pas prévu un rédempteur au cas où, non, il a prévu un rédempteur parce qu'il savait qu'il y aurait la chute. Elle était prévue avant la fondation du monde. Et Jésus est venu et nous a rachetés. De quoi ? Eh bien, il nous a rachetés des conséquences de la chute. Il nous a rachetés des effets de la chute, sans même que nous le lui demandions. Nous étions même pas nés. Mais tout ça, ça a été discuté dans le passé éternel. Tout ce plan, cet accord, cette alliance, tout ça, ça a été discuté dans le grand conseil de Dieu et c'est devenu une réalité petit à petit dans l'histoire. Et la seule condition, c'est aujourd'hui que nous cherchions la libération des effets des péchés personnels par la foi en Jésus-Christ uniquement. Dans la Bible, nous apprenons que Jésus était et est toujours l'Éternel, quand il est écrit l'Éternel, l'Éternel. C'était Jésus qui parlait à Enoch, c'était Jésus qui parlait à Noé, qui parlait à Abraham, Isaac, Jacob, c'était Jésus. Jésus était le Dieu d'Israël, quand ils vont s'en rendre compte, les pauvres. Le Dieu d'Éphraïm, le Dieu de Judas, c'était Jésus. Il était le Dieu des prophètes depuis Moïse jusqu'à Malachie. Il était, et il a toujours été, et il sera toujours, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il était le Dieu de l'Ancien Testament, et il était le Dieu des Néphites sur le continent américain. Et c'est par Jésus que tout a été créé et que tout subsiste. C'est ce que Colossiens 1, 16, 17 nous affirme clair et haut. Rien n'a été fait sans Jésus. Non, ça va, je me suis trompé. Rien n'a été fait sans Jésus. En fait, la Bible nous dit ces choses, mais peu le comprennent. Non, j'ai cru qu'il voulait passer, c'est tout. Par contre, Samuel, le Lamanite, ma foi, si vous ne comprenez pas ce que c'est que les Lamanites, c'est que vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit dans les prédications précédentes et vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais bon, je parle à des gens qui suivent et qui, voilà, j'espère, qui suivent. Et... Donc, Samuel, un Lamanite converti, prêchait aux Néphites incrédules et il disait, sur le continent américain, je paraphrase le début de la phrase, j'annonce cela afin que vous soyez au courant de la venue de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Père du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses depuis le commencement, et afin que vous connaissiez le signe de sa venue pour que vous croyiez en son nom. On trouve ça dans Élaman 14, 12. Et quand Jésus a posé ses pieds sur le continent américain, Jésus dit, voici, je suis... C'est clair. Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai créé les cieux et la terre et toutes les choses qu'ils contiennent. J'étais avec le Père dès le commencement. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et en moi, le Père a glorifié son nom. 3 Néphites 9, 15. Les Néphites ne comprenaient pas très bien le rapport entre l'évangile que Jésus, descendu du ciel, leur et ressuscité et descendu du ciel leur apportait, et la loi mosaïque qu'ils considéraient par tradition comme toujours en vigueur. Ils s'étonnaient de ce que Jésus leur disait, que les choses anciennes étaient passées. Alors Jésus leur explique cela. Voici, je vous dis que la loi qui fut donnée à Moïse est accomplie. Voici, c'est moi qui ai donné la loi, et c'est moi qui ai fait alliance avec mon peuple d'Israël. C'est pourquoi la loi est accomplie en moi, parce que je suis venu pour accomplir la loi. C'est pourquoi elle est finie. 3 Néphites 15, 4, 5. Et ça, c'est la façon que Dieu a de parler à des gens qui comprennent ce qu'il est en train de leur dire, mais aujourd'hui, à l'époque des MDR, PTDDR, PKZ et compagnie, les gens ne comprennent plus parce qu'ils ne connaissent pas la signification des mots. Le problème pour les chrétiens, c'est la signification du mot accomplir. Le mot accomplir a au moins 5 significations. Et suivant ce que Jésus dit, c'est une de ses significations. Premièrement, accomplir, ça veut dire quelque chose d'accompli, c'est quelque chose de parfait en son genre. Un disciple accompli, c'est un disciple qui est comme Jésus, qui est parfait en son genre. Accomplir, ça veut dire aussi terminer. Les temps sont accomplis, les temps sont terminés. Troisièmement, ça veut dire faire, accomplir mes 12 mois d'apprentissage. On dit, rien ne pourrait m'empêcher d'accomplir ce que je veux. D'accord ? Faire. Quatrièmement, ça veut dire satisfaire. Accomplir un vœu, accomplir un devoir, accomplir sa tâche, satisfaire. Cinquièmement, ça veut dire arriver. Ça veut dire se réaliser. Je me suis accompli là-dedans. Avoir lieu. Voilà, ça c'est accompli. Alors, que veut dire Jésus quand il dit qu'il a accompli la loi ? Il a dit, je suis venu pour faire ce que la loi disait, et je suis venu pour être ce que la loi disait. Voici ce que la loi et les prophètes ont dit, c'est accompli, c'est là, je suis là. Et je suis venu pour y mettre un terme, pour terminer la loi. Pour faire et pour terminer. Alors, relisons maintenant Matthieu 5, 17, 18, avec cette connaissance. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Alors, l'a-t-il terminé ? Oui ou non ? La loi est-elle finie ? Est-elle abolie ? On va faire une autre lecture dans Romains 10, 14. Romains 10, 14. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Là, je crois que je me suis trompé de texte. Non, c'est 10.4. Mais c'est très bien ce verset. C'est ce verset qui dit qu'il n'y a pas des milliers de personnes qui peuvent venir au portail du château si personne ne va leur annoncer, voyez ? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé ? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, il faut sortir du salon un petit peu et puis aller prêcher dehors, hein, si on veut que les gens viennent à Jésus ou au portail. Non, c'est Matthieu, c'est Romains 10, 4, en fait, le texte que je voulais vous lire. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient, pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Christ est la fin de la loi pour que tous ceux qui croient reçoivent la justice. Un autre texte, Éphésiens 2, 15. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Galates 3, 23, 25. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, c'est-à-dire à la loi. Alors la révélation est celle-ci. Jésus met en opposition deux mots, abolir et accomplir. Ça signifie qu'il n'est pas venu s'opposer à la loi, il la respectait, il la pratiquait, il l'aimait, il l'a accomplie, c'est-à-dire il l'a faite, il l'a pratiquée, et depuis la croix, Si nous sommes toujours assujettis à la loi, c'est que Jésus a raté sa mission. Maintenant, notez bien ce que Jésus a dit. Relisons Matthieu 5, 17, 18, parce qu'il faut que ça rentre. « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En effet, je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout nous soit arrivé. Dans vos versions, c'est écrit quoi à la place de arriver ?
Réalisé.
Et dans la tienne, c'est écrit quoi ? Accompli. Accompli. Avant que tout ne soit accompli, c'est-à-dire avant que tout ne soit arrivé ou réalisé ou fait ou terminé. Et à la croix, il a tout accompli. Cinquième signification du mot accomplir. Ça signifie clairement que pas un iota de la loi ne devait disparaître avant la croix. Parce que même la terre et le ciel ont disparu là. Tout était accompli, parce que maintenant, le ciel et la terre, c'est Jésus qui tient tout ça en main. Il a tout accompli, tout est fait. Pas un trait de la loi ne disparaîtra avant que tout soit accompli. Qu'est-ce que Jésus a dit en mourant ? Tout est accompli. Ça veut dire que maintenant, la loi, c'est terminé. Sur toute la terre, toute la terre et tous les cieux sont rentrés dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dispensation. La terre du temps où Jésus a dit ça, elle n'existe plus. Si vous croyez dans la justice qu'on obtient par la foi, sinon vous êtes toujours sous la loi et Christ est mort en vain pour vous. Vous voyez combien c'est important et profond ? Il a accompli toute la loi, il l'a pratiquée, il a été lui-même le sacrifice. Maintenant, selon leur niveau intellectuel, les gens attachent ou non de l'importance aux mots et aux titres. Un enseignant, il est là pour enseigner, et je vous enseigne, que dans la nomenclature de Dieu, tout nom est un titre de puissance, un titre de position. Et Dieu a un zèle particulier et juste pour la sainteté de son propre nom. Exode 27. Et il donne des noms à des gens suivant la fonction, suivant la position qu'ils vont avoir. Le nom de Jésus a été donné avant sa naissance. Le nom de Jean-Baptiste a été donné avant sa naissance. Des noms ont été changés par le Seigneur parce qu'ils ne constituaient pas des titres suffisamment clairs et définis pour montrer quel était le service particulier de la personne qui le portait. Pourquoi est-ce que l'ange a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés? Ça ne veut rien dire cette phrase, si ce que je vous dis là n'est pas vrai. Matthieu 1, 21. Parce que le nom a une importance, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Eh bien, à l'époque de Jésus, quand on rencontrait Jésus et qu'on lui disait bonjour Yeshua, ça voulait dire bonjour sauveur. Parce que Yeshua signifie sauveur. Est-ce que vous saisissez la puissance de cette chose ? La puissance des mots, l'importance des mots, c'est ce que ce nom signifie. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Christ ? C'est pas son nom de famille. C'est parce que c'est un titre sacré, ça signifie « oint ». Alors mes frères et sœurs, rien n'est laissé au hasard. Même les mots, je dirais surtout les mots, parce que Dieu est la parole. Parce qu'ils ont ils sont porteurs de puissance, de vérité ou de mensonge. Le diable aussi parle. Mais il parle de son propre fond. Et ce qui sort, c'est des mensonges. Il est le père du mensonge. Nous invoquons le nom de Yeshua sur nos vies. Il est notre sauveur, il est notre Dieu. Ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive et ce qui nous arrivera, c'est entre ses mains. Nous n'avons pas peur. On est confiant, c'est-à-dire on est dans la foi. Dans le mot confiant, il y a le mot fi, qui signifie foi, que vous trouvez dans fiancé, que vous trouvez dans plein d'autres mots. Donc ce qu'il nous faut, c'est aimer le plan de Dieu, quoique là où on en est, dans un plan, il y a un départ, il y a un aboutissement, mais entre les deux, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Eh bien, même s'il nous fait passer par des moments difficiles, aimons le plan de Dieu. Nous sommes à bord de sa barque, et des fois, dans la barque, c'est périlleux. Mais on va arriver de l'autre bord. Pourquoi ? Parce que il a dit « allons de l'autre bord », il n'a pas dit « allons au fond de l'eau », il n'a pas dit « nous allons couler, allons nous amuser à couler ». Non, il a dit « allons de l'autre bord, nous avons cru, nous nous sommes engagés, nous sommes montés dans cette barque, nous sommes montés dans son église parce que nous savions que nous arriverions à destination, et nous arriverons à destination, à la vie éternelle qu'il a promise. C'est une réalité, avec un nouveau corps, heureusement qu'il l'a dit ». Parce que sinon, merci. Nous arriverons à bon port parce qu'il nous l'a dit et parce que nous le croyons. Il faut les deux. C'est une alliance. L'alliance, ça se fait entre deux choses, entre deux personnes. Il nous l'a dit et il nous revient de le croire. Croyons-le, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas décourager par ce qui peut nous arriver, par ce qui nous est arrivé ou par ce qui nous arrivera. Croyons simplement que toute chose est bien. Tout est bien. Nous sommes dans le plan de Dieu tant que nous restons dans cet état d'esprit. Tout est bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y avait une femme, son enfant était mort dans la chambre. Elle a fermé la porte, elle est allée trouver le prophète. Et elle a croisé son mari qui lui dit « Mais où est-ce que tu vas? Ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle lui dit « Tout va bien. » C'était un mensonge. Tout n'allait pas bien, son fils était mort. Mais elle allait trouver le prophète. Vous comprenez? Tant qu'on va vers la parole de Dieu, tout va bien. Même si ça semble mort, même si c'est mort, ne doutons pas. Restons confiants. Amen. Jésus, je te prie de bénir et de soutenir mes frères et sœurs qui m'écoutent ce message. Oui, tu as tout accompli. Oui, nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire sous ta loi de bonté, de justice, d'amour. Tu nous as justifiés, tu es notre justification, tu es notre sanctification, et tu as dit « Heureux l'homme à qui je n'impute pas la faute ». Merci Seigneur de ne pas nous imputer la faute d'Adam et Ève, merci de ne pas nous imputer nos propres fautes, mais d'avoir tout porté à la croix et d'avoir accompli tout ce qui devait être accompli, c'est-à-dire détruire les conséquences de nos péchés. Merci Seigneur Jésus, parce que tu n'as pas seulement porté nos péchés, mais tu as porté aussi les conséquences. Comme nous voyons que les conséquences du péché d'Adam et Ève, c'était les épines, eh bien les épines ont été placées sur ton front. Tu as porté même les conséquences. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche.